rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Oula, je te sens ce soir, Laurent, extrêmement pressé de commencer cette émission. Bienvenue
non,
dans le Canu Info. On prend la suite de cette très très bonne émission des paysans et paysannes dans la lutte de classe qu'on retrouve donc tous les 15 jours sur Radio Canu. Bon, pour tout vous dire, j'avais pas envie de faire cette émission. Non, des fois, je trouve que le monde, il est tellement moche. Ouais, que je veux plus venir derrière le micro. Et c'est pas juste à cause du Covid, hein, c'est que franchement, le Covid a fait, je pense, encore plus apparaître la mocheté du monde et de l'être humain. Je dois dire que là, l'humanité.
Tu te désoles.
Ouais, là, ça, c'est affligeant. Il plein de trucs, hein, affligeants, hein. On aurait pu parler de cette femme qui n'arrive pas à faire accuser un homme de, enfin en tout cas de tenter de faire condamner un homme pour viol parce qu'on se demande si la pénétration jusqu'où elle va et donc du coup c'est plutôt perçu comme une agression sexuelle hein, parce que le corps de la femme n'est encore pas tout à fait respecté dans ce monde et en particulier aussi en France. Donc voilà, on arrive avec des petites histoires moches comme ça avec lesquelles on aurait pu vous parler ce soir. Vous avez pas lu hein, cette histoire de c'est scandaleux quand même hein, qu'aujourd'hui on en arrive à pour des histoires de millimètres ou de centimètres refuser des terminologies de viol contre les femmes. Hein, mais voilà, moi j'ai retenu deux histoires très moches. Pour commencer, si tu veux bien me permettre. Ouais. D'abord, je tu n'as pas le choix, de toute façon. Tu m'as forcé à venir, donc tu es obligé d'écouter tout ce que j'ai à dire
comme ça, quand même.
Ce soir. Non mais voyez, j'en rigole là, quand même. Tu m'as amené par une sollicitation intense à me dire, mais si, viens, c'est important de maintenir une activité à Radio Canu. Et tu as parfaitement raison. Je voudrais d'abord m'adresser aux amis brésiliens et brésiliennes pour savoir si Monsieur Bolsonaro... j'arrive pas à avoir une traduction exacte à parler de PD, de pédale ou de tapette. Ça me paraît important le vocabulaire parce que quand on en est dans ce niveau-là d'interprétation, je pense qu'il faut avoir le mot juste.
Enfin, il a tenu des beaux propos homophobes quand même pour dire que le Brésil n'était pas un pays de, donc du coup, de PD ou de voilà.
Oui, tout ça parce que c'est une histoire encore à la trempe, hein, c'est-à-dire qu'il faut se battre la tête haute, lutter, a-t-il expliqué. Il renie encore une fois cette pandémie de Covid-19. Le coronavirus, il en a guéri, explique-t-il, très facilement avec un claquement de doigts et tout s'est bien passé. Il nous explique aussi que finalement, c'était bien que ce vaccin brésilien qui pourrait être sur le marché, il y a eu un arrêt hein, d'un moment des phases, des tests cliniques, puisque ce vaccin, je le cite, n'amènerait que mort, invalidité, anomalie. Voilà, on a encore une fois quelqu'un de conspirationniste, conservateur, de droite, qui, rappelons-le, hein, avait quand même, à la naissance de sa fille, fait savoir que quand même c'était un petit problème. Parce qu'il aurait aimé avoir un garçon.
Un garçon, bah oui.
Voilà. Voilà, le pays de PD, de pédale ou le tapette, si vous savez exactement ce qu'il a dit, ça m'intéresse. Que j'ai aussi noté, c'est la position du Parisien, qui, dans son article, critique hein, très fortement
Bolsonaro.
Ouais. Ça, il n'y a pas à dire. Par contre, le titre de départ, c'est Covid-19, deux points, le nouveau dérapage homophobe de Bolsonaro. Alors même, j'appelle pas ça du dérapage. J'appelle ça à la rigueur du vautrage. Hein. Mais là on n'est pas dans le dérapage. C'est pas une petite erreur linguistique. Même si on est en train de parler de linguistique, c'est bien quand même une horreur verbale qui a été sortie. Et puis sinon, mon autre horreur du jour... Je vais être obligée de la lire. Alors, je l'ai lu sur lefigaro.fr. C'est un de ses commentaires hein, sous un article qui s'appelle « Les Arméniens s'inquiètent pour le patrimoine du Haut-Karabakh », passé sous le contrôle azéri. Alors,
le patrimoine du Haut-Karabakh, il n'est pas énorme.
Non,
enfin, il y a des monastères.
Il faut quand même s'en souvenir. C'est vrai qu'après, pour nous-mêmes avoir été au Haut-Karabakh, on peut vous dire que ce n'est pas très beau. À des endroits, par contre, c'est vrai qu'il y a un sol archéologique extrêmement riche. Hein, il y a l'archéologie qui était en place. Il y a un moment, les gens sont partis parce qu'effectivement, il y a eu ce conflit, il y a déjà longtemps maintenant, entre les deux territoires et que ça a amené les internationaux en archéologie à quitter le territoire. Mais il y a des fouilles qui sont faites, il y a des fouilles qui sont intéressantes. Et donc, oui, il y a du patrimoine. Et puis, il y a effectivement aussi un certain nombre de patrimoines religieux qui, évidemment, on espère bien, sera préservé, ne sera pas abîmé. Au-delà du fait que c'est des lieux de culte, et que je ne vois pas l'intérêt d'aller abîmer des lieux de culte, pour les abîmer, en tout cas, puisque là, on n'est pas dans le cadre d'une révolution contre un ordre religieux, comme on a pu connaître aussi en France, hein, avec la Révolution française. On espère bien que ce patrimoine ne sera pas détruit pour principe d'être détruit, qu'il soit transformé, c'est autre chose. Alors donc, ce commentaire a disparu. Je tiens à signaler que le Figaro fait son job.
Arrête de regarder le Figaro.
Mais non, mais je veux dire, on trouve les horreurs. L'horreur du jour est écrite par quelqu'un qui se fait appeler Yosi à 16h50 ce jour. Je lis. Je vais être obligée d'aller jusqu'au bout, je suis désolée, c'est un peu long pour commencer. Les Turco-Azéris, on va y revenir, sont des sanguinaires et des pillards par nature. Ils n'ont pas d'histoire et rien qui ne justifie leur présence sur ces terres d'Anatolie et du Caucase qu'ils ont littéralement volées. Alors, ils sont obligés de s'approprier l'art et les monuments des peuples qu'ils ont colonisés et exterminés, en falsifiant l'histoire. En Anatolie, la situation est similaire. Les populations chrétiennes, très nombreuses encore, il y a un siècle, ont été victimes d'une extermination planifiée durant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les centaines d'églises qui ont survécu à la destruction et à la profanation, convertis en mosquées, sont soit laissés à l'abandon, soit utilisés comme des granges pour entreposer du bétail ou du foin. Ceci dit, la présence de ces animaux dans ces églises abandonnées constitue bien moins une profanation et une souillure que la présence des Turcs en train de prier le cul en l'air dans des églises poliées et converties en mosquées. Cela va de soi.
Bon, on a compris, c'est un chrétien qui n'aime pas les autres religions.
Je ne sais pas ce que c'est.
À la Révolution, on a utilisé aussi les églises pour mettre faire des granges, en fait.
On sent quand même que on comprend pourquoi le Figaro a enlevé ce commentaire. Hein, comparer quand même des Turcs à des animaux, qu'on sent quand même être quelque chose d'insultant, hein, dans ce propos. Vous l'aurez deviné assez largement. Quand même, hein, on est bien content. Moi, j'ai surveillé quand même combien de temps ce commentaire allait rester. Il n'est pas resté très longtemps, mais c'est vrai que 16h50, 17h14, je tombe dessus, il est toujours là, et puis finalement, il a fini par être enlevé et disparaître. Sauf que le Figaro doit se battre parce que la nature des commentaires sur ce conflit dépasse l'entendement, il faut bien le dire. Maintenant, sur l'expression turco-azéri, on la retrouve beaucoup dans les articles de presse qui reprennent cette expression, globalement en étant du côté de l'Arménie et d'un Haut-Karabakh arménien. Alors, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que moi-même, ayant du mal à dire des fois azerbaïdjanais parce que ma langue elle fourche, j'ai pris cette très mauvaise habitude de dire azéri. Mais c'est vrai qu'on peut dire aussi azéri pour les habitants de l'Azerbaïdjan. Simplement, les termes azéri ne représentent pas que les habitants de l'Azerbaïdjan, mais va aussi représenter des populations ou des ethnies, une ethnie qu'on va pouvoir retrouver aussi en Iran. Donc, parler du turco-azéri est juste une idiotie aujourd'hui dans le terme, d'autant plus qu'il y a une bataille, et c'est là encore, on parle de linguistique, derrière ces mots, qu'est-ce qu'être azéri aujourd'hui, et il y a une bataille de... Où est-ce qu'on emmène les azéris? Est-ce qu'on les fait rendre turcs? Est-ce qu'on les fait rendre perses? Parce qu'il y a une modification de la langue dans ces territoires qui est consécutif aux différents passages des uns et des autres, hein, sur un territoire, et qui fait qu'à un moment, les habitants et les habitantes ont parlé une langue, puis on en parlait une autre. Aujourd'hui, c'est quand même très tendancieux de vouloir systématiser les azéris comme étant turcs, même si effectivement, il y a une installation turc qui a fait qu'il y a une langue qui est apparue, qui est là, et qui amène un peuple à parler turc, et donc aujourd'hui, évidemment, on a l'Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie. Mais est-ce que c'est suffisant pour en faire des turco-azéris? Moi, je m'interroge. Je suis allée lire pas mal de trucs cet après-midi.
Si c'est un peuple turkmène, non?
C'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai été lire plein de trucs. Et aujourd'hui, c'est comme dans plein d'endroits du monde. Selon où tu te places, tu ne vas pas donner le même nom, même terme et la même terminologie à des habitants et des habitantes. Donc, en général, j'ai remarqué, moi, j'ai fait un peu le tour de la presse ou des forums. Quand on parle de turco-azéri, il y a un parti pris à l'arrière.
Ah oui, c'est contre eux.
Donc, ma discussion du jour, ce soir, ce sera faisons attention aussi à notre linguistique, comment on parle, même nous, des fois, on fait des erreurs de langage aussi dans cette émission, parce qu'il y a une politisation derrière des termes, et que là, les termes sur ce conflit, on les retrouve très très fort.
Et ben voilà, je vais faire ma petite rubrique Covid de sens aujourd'hui en parlant de trois petites informations. La première, c'est sur le jour de carence, puisque la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, c'est son titre, Amélie de Montchalin, s'il vous plaît, Vous rappelez qu'à la Révolution, on a essayé de couper la tête aux deux, et là, il y en a qui ont échappé. Donc, cette descendante de nobles vient de refuser une nouvelle fois de suspendre le jour de carence. Vous savez, c'est ce jour quand on est malade, le premier jour, on n'est pas payé. Alors, je parle de la fonction publique, mais ça marche aussi pour le privé. C'est donc la seconde fois que cette dame, Amélie de Montchalin, botte en touche. Dans un courrier adressé mardi 10 novembre, avant-hier, 6 organisations syndicales de fonctionnaires, la CFTC, CGT, FA, FSU, Solidaire et UNSA, à peu près tout le champ politique au sein des syndicats de la fonction publique, l'avait interpellé en fin de semaine dernière, donc pour réclamer l'abrogation de ce jour de carence. Alors elle répond que pour elle, le nouveau confinement est pas du tout identique au premier, puisque dans le premier confinement, le jour de carence avait été supprimé. Dès qu'on était malade, les fonctionnaires ne perdaient pas de salaire. Alors, on se demande en quoi la situation est différente du printemps. Alors, on voit bien que le confinement n'est pas tout à fait pareil, mais en même temps, il y a quand même les mêmes problématiques. Alors, la ministre met en avant un, je cite, « haut niveau de déploiement de mesures de protection pour tous les agents ou usagers du service public, comme sur tous les lieux de travail, contrairement à la première vague ». Donc, elle laisse entendre qu'il n'y a pas de contamination possible sur le lieu de travail, parce que tout le monde est protégé, donc c'est pour ça que, bah, finalement, ils vont pas l'attraper au boulot. Or, les chiffres montrent qu'il y a quand même pas mal de clusters au travail. Donc là, elle va à l'encontre d'une vérité scientifiquement établie, la madame Amélie de Montchalin. Elle se retranche d'ailleurs derrière un avis du 30 juin du Haut Conseil de la Santé publique qui disait que le risque d'être exposé au Covid, enfin au SARS-CoV-2, n'est pas supérieur en milieu professionnel qu'au sein de la population générale. Et alors, dirons-nous. Mais par contre, elle a bien sûr oublié qu'il y avait eu depuis d'autres avis, notamment le Conseil scientifique du 9 septembre, qui recommandait d'annuler le jour de carence. Et puis du coup, elle va à l'encontre de la doctrine du gouvernement qui consiste à isoler les cas contacts ou les malades, les isoler instantanément pour essayer de limiter les contaminations. Alors pourquoi ça va à l'encontre de cette doctrine? Parce que une partie des gens, alors ça marche pour le public ou le privé, notamment pour les bas salaires, ils vont, pour ne pas perdre de salaire, ils préfèrent travailler quand ils ont des doutes, voire quand ils ont des symptômes, plutôt que de rester chez eux et de perdre du salaire parce qu'ils ont des salaires trop faibles. Alors une fois de plus, elle continue de valider les discriminations parce que elle estime que tout un chacun peut se passer d'un jour de salaire. Or, c'est oublié, donc dans la fonction publique notamment, il y a des très bas salaires. Donc voilà, elle est dans son mépris assez classique de la part des gens issus de La République En Marche, le mépris pour les bas salaires. Voilà. On rappelle quand même qu'en 2017, Gérard Darmanin avait chiffré le coût du jour de carence. Parce que là, on va parler d'argent. Est-ce que ça coûte vraiment cher de faire ça? Pour la fonction publique, ça coûte 170 millions d'euros par an. Donc là, si c'est sur quelques mois, c'est pas grand-chose. Si on va dans le privé, ça fait 600 millions d'euros par an, les carences, les jours de carence. C'est pareil, si on est sur les deux mois de confinement qu'on a devant nous, ça représente pas tant que chose. Et surtout, c'est une broutille par rapport aux 20 milliards que l'État vient de débourser pour aider les entreprises. Donc il y a une vraie volonté de mettre la pression sur le salarié. Et du coup, ça va à l'encontre de la doctrine sanitaire qui est de, dès qu'on a des doutes, on isole les personnes. Et les personnes pauvres vont pas s'isoler pour pas perdre de salaire. Voilà. Ça va même à l'encontre de l'association des DRH, des grandes collectivités, mais donc de la fonction publique territoriale, qui demandait à ce que effectivement le jour de carence soit payé afin d'isoler dès qu'il y a des cas un peu suspects. Voilà, elle va à l'encontre de ça, comme quoi il n'y a aucune cohérence dans ce gouvernement, mais ça on le savait déjà. Alors sur toujours en lien avec ce Covid, le télétravail, donc qui est soi-disant obligatoire ou en tout cas fortement incité par le gouvernement, donc deuxième réunion avant-hier, mardi, entre les syndicats et le MEDEF, c'est Hubert Mongon qui représente le MEDEF, qui représente aussi la CGPME et l'UDP. Hein. Il représente quasiment tout le patronat, du coup. Les syndicats disent, bon, ça a été laborieux, le patronat s'oppose à tout. Voilà, grosso modo, le résumé de la réunion. À toutes les négociations pour faire avancer un accord sur le télétravail et donc généraliser, en tout cas développer le télétravail. Pourtant, quand il est sorti de la négociation, il a dit, je cite ce monsieur du MEDEF, on ne rentre pas dans une négociation pour échouer, on rentre dans une négociation pour réussir. Bizarrement, pendant les 5 heures de la négociation, il a dit non à tout. pour quelqu'un qui veut négocier, c'est un peu compliqué quand même. Il a pas bien compris. Bon, bref, ce triste menteur est allé jusqu'au bout, jusqu'à, je cite, louer. Et là, il a fait un grand discours. Les points de convergence lors de cette rencontre, qui, selon lui, dans un climat constructif avec la CFDT, là, il a cité tous les syndicats. Bon, voilà, il fait de la langue de bois, il ment effrontément. C'est lui qui bloque les avancées sur un accord possible pour améliorer et développer le télétravail. Il va donc à l'encontre des mesures sanitaires, lui aussi, prônées par le gouvernement. Mais comme d'habitude, le gouvernement ne dit rien à madame de mon Chalin, et ne dit rien non plus aux MEDEF qui vont à l'encontre de la doctrine sanitaire. Comme quoi, la doctrine sanitaire, elle a bon dos. Et puis, un truc que j'ai trouvé presque drôle, c'est la plateforme de location touristique Airbnb qui fait un petit bilan, qui a fait un communiqué de presse. Alors, c'est de la pub, hein. Enfin, faut le voir ça comme ça. Ils montrent qu'eux, ils sont sympas, ils font des efforts sur la lutte contre le Covid. Ce qui a l'air d'être vrai, mais bon, c'est plus de la propagande qu'autre chose. Donc ils annoncent qu'ils avaient bloqué 30 500 réservations entre mi-août et mi-septembre sur des gens qui avaient réservé des apparts un peu grands pour faire des fêtes, alors que c'était pas possible. Donc voilà. Donc ces comportements inappropriés, ils les ont bloqués. Depuis le confinement, 900 annonces ont été supprimées ou suspendues. Donc depuis novembre, là, c'est pareil parce que ça va à l'encontre de leurs nouvelles règles, c'est-à-dire d'empêcher l'organisation des fêtes. Ce qui est en lien avec la doctrine du gouvernement et la doctrine sanitaire en général, de limiter les contacts entre les gens, puisqu'il faut essayer de pas se contaminer. Donc de limiter les contacts. Alors ils avaient fait ça au Canada, aux États-Unis, ils ont étendu ça à l'Europe, notamment à la France, et donc ils ont expliqué ça. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'ils n'ont pas bloqué tout le monde. Si jamais vous aviez déjà réservé plusieurs fois des Airbnb, que vous avez eu des bonnes notes, vous avez la possibilité de louer toujours. Mais ceux qui ont fait ça à l'arrache en disant « moi je suis jeune, j'ai besoin de louer parce que chez moi je peux pas le faire parce que là on m'empêche de sortir », ils ont bloqué ça. Alors ce qui est drôle et ridicule, c'est que aujourd'hui pour lutter contre l'égoïsme et les comportements irresponsables de celles et ceux qui veulent à nouveau faire la fête et se contaminer, c'est des entreprises qui agissent. c'est triste et presque à vomir de voir ça, même si on sait que Airbnb essaye de se racheter une bonne image, hein, parce que on leur reproche à juste titre de phagocyter les centres-villes, hein, d'empêcher les habitants d'habiter les centres-villes, puisque les apparts sont maintenant mis à la location pour du tourisme, en partie en tout cas. Donc là, ils essayent de se racheter bonne conscience en faisant ça. Ça va, certes, dans le bon sens, mais c'est quand même un poil rigolo.
Tout autre chose, rien à voir. Ça concerne toujours un petit peu, évidemment, cette pandémie, ce Covid. Amazon, nous avons un texte sous les yeux qui est plutôt intéressant. Des maisons d'édition ont décidé de ne plus vendre leurs livres sur Amazon. Alors, quand on lit, avant de lire le texte, quand on lit la liste des signataires, ça va dans le sens du texte. C'est-à-dire que je vais prendre deux exemples dans la liste. Mais j'aurais pu, les autres, vous m'en voulez pas, hein, s'il vous plaît. Les éditions libertaires, parce qu'ici on connaît bien. C'est pas un truc que je vais acheter sur Amazon de toute manière.
Ouais, c'est
personnellement,
ça.
Si t'achètes un livre des éditions libertaires sur Amazon, c'est qu'il y a un truc qui est pas logique dans ta tête. Mais ça peut être aussi le Chien Rouge. Le Chien Rouge, c'est le journal CQFD. Ça vous parle aussi, hein? Le logo vous est venu dans la figure d'un coup. C'est pareil, hein, on n'achète pas ça sur Amazon. Donc ça nous explique, sur ce texte, nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon. Son monde est à l'opposé de celui que nous défendons. Nous ne voulons pas voir les villes se vider pour devenir des cités dortoirs hyper connectées. Amazon est le fer de lance du saccage des rapports humains et de l'artificialisation de la vie. Nous devons sans attendre boycotter et saboter son monopole. Saboter son monopole. Le terme est fort quand même.
Ouais.
Si, quand même.
Ils n'ont pas de monopole.
Non, mais on voit quand même l'idée derrière. Je trouve que le terme boycotter et saboter est intéressant. Nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon. Les conditions de travail dans ces entrepôts et en dehors, bas salaire, précarité, cadence exténuante, pause réduite, management électronique, chasse aux syndicalistes, son impact écologique, destruction des inventus, bétonisation, utilisation massive d'énergie pour les frais aériens et routiers, l'enrichissement démesuré de son patron et de ses actionnaires sont autant de marques du cynisme du modèle économique et social défendu par cette multinationale. Nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon. Les libraires sont des lieux de rencontres, d'échanges critiques, de débats de proximité. Un livre doit pouvoir être défendu auprès de ses lecteurs, lectrices, par une éditeur-éditrice, une auteur-autrice, et ne pas être invisibilité par les meilleures ventes du moment. Nous ne voulons pas remplacer les conseils d'un libraire d'une libraire par ceux d'un algorithme, ni collaborer à un système qui met en danger la chaîne du livre par une concurrence féroce et déloyale. Nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon. Diffuser de la pensée critique ne peut se faire par ce type de plateforme. Si nous lisons, publions et défendons des textes, c'est pour affûter nos imaginaires et donner corps à nos refus comme à nos convictions. Nous ne sacrifierons pas notre idée du livre pour un compromis financier. Nous ne laisserons pas imposer un futur uniforme et impersonnel. Nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon. Avatar d'un système global, Amazon représente un monde dont nous ne voulons pas et avec lequel il est grand temps de rompre. Nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon et appelons l'ensemble des maisons d'édition et auteurs et autrices de la chaîne du livre à nous rejoindre dans cet engagement. C'est un texte qui est plutôt bien écrit, je trouve, qui est synthétique.
Ouais.
Mais évidemment, si jamais les Gallimard et autres ne rompent pas cette chaîne avec Amazon,
oui, et puis
ça n'ira pas bien plus loin.
Alors, on le sait très bien, dans les chiffres, Amazon a moins d'impact sur la fermeture des librairies que les grosses enseignes, notamment Cultura, hein, qui détruit énormément de librairies en s'installant, en faisant des gros supermarchés et de la culture bas de gamme. Donc là, on se dit, c'est un peu se foutre de la gueule du monde de toujours attaquer le méchant américain Amazon et de rien dire sur la Fnac.com, de rien dire sur Cultura qui fait fermer énormément de petites librairies, de vraies librairies. Et tout ce qu'ils reprochent, là, Cultura, ils y sont dedans. Hein. Par exemple, je cite Cultura, mais ça pourrait être un autre géant, là. Donc, je trouve ça un peu facile, l'attaque sur Amazon. Voilà.
C'est
même
un peu
si
facile,
on a tous envie de taper
ça,
sur Amazon.
Quand même, ça existe. C'est intéressant que des éditeurs, effectivement, qui attaquent un modèle imprécis, hein, aussi, parce que c'est des plateformes et que ces plateformes, elles existent. Maintenant, encore une fois, Amazon, c'est comme avant, on l'a dit la dernière fois, McDonald's, la sale bouffe, on en trouve de partout, il faut attaquer tout le monde. Mais je trouve qu'il y a quand même un beau texte qui synthétise bien ce qu'on peut aussi penser de Amazon. Et puis, question linguistique encore ce soir, c'est sur actualité.com et sur les réseaux commerciaux d'actualité qu'est venue cette question de comment remplacer le click and collect. Vous savez que si vous nous écoutez, j'aime pas trop ces expressions anglaises, je suis une conservatrice chiante de la langue française, non pas que je pense pas qu'il faille pas mélanger les langues, parce que c'est comme ça aussi qu'elle se développe et qu'elle lit, mais sauf qu'on est devenu paresseux et paresseuse et qu'on préfère finalement récupérer ce langage qui nous vient du commerce, l'incorporer à notre langue sans faire d'efforts. Et je trouve qu'il y a des gens qui font d'efforts. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été proposées et que l'actualité nous ramène. On a transformé le click and collect en click et collect.
Oui, c'est ça, je l'ai vu plein de fois, hein. Click et collect.
Mais c'est un peu facile. Moi, j'aime beaucoup le slip.
Ah, mais slip, pourquoi slip ?
Service de livraison à la porte.
Et non, slip, maintenant, à la porte, il n'y a pas de i. Comment ils font pour faire ?
Eh bien, parce qu'ils ont fait un
livraison
acronyme.
Avec le i.
Voilà. Et ben, c'est drôle.
Le slip.
C'est drôle.
Ouais, en
c'est
slip.
Drôle. Une de leurs lectrices a proposé quelque chose dont moi je suis fan et je tiens à vous le dire, je l'ai récupéré pour moi. Merci à vous, si vous nous écoutez, ça m'étonnerait, mais enfin, merci. Clique et réplique. Voilà. Je trouve ça très chouette.
On clique et réplique.
Et ben ouais, parce que c'est ça. Mmh. Tu cliques, tu répliques. Je trouve ça très beau et voilà, je trouve que c'est une belle idée d'aller chercher comment on peut transformer ce vocabulaire commercial qui a envahi un petit peu notre langue et c'est moche, alors qu'on peut faire des efforts. Au Québec, on parle de cueillette. C'est pas mal aussi.
Ouais. Ils sont beaucoup plus créatifs que nous pour transformer les mots anglais.
Pour incorporer, voilà, parce qu'il y a plein de mots qui incorporent notre langue continuellement et ce sont des mots qui viennent d'une langue étrangère et c'est très chouette parce que ça fait vivre notre langue. Mais quand c'est juste par pareil, je trouve ça un peu dommage. Donc je trouve que voilà, ce clic et réplique, moi je me suis approprié ce terme. J'espère que je ne serai pas la seule. Voilà.
Alors je poursuis avec, on va parler un peu de droit à l'avortement avec deux petites infos. Puisque le droit à l'avortement, c'est pas que en Pologne qu'il faut en parler. C'est un combat permanent, on le rappelle. Les reculs peuvent arriver tous les jours, hein, même ici. Alors là, c'est pas un recul, c'est une avancée provisoire, puisque devant les difficultés du système de santé actuel, notamment du système hospitalier, qui est donc envahi par des malades Covid, le ministère de la Santé et de la Solidarité, c'est M. Olivier Véran, et la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, Elisabeth Moreno, ont décidé de reconduire les mesures exceptionnelles adoptées lors du premier confinement. Alors c'est quoi ces mesures exceptionnelles ? C'est d'augmenter l'interruption volontaire médicamenteuse en durée. Donc maintenant, on a le droit jusqu'à 9 semaines de prendre ces, il y a deux médicaments là, pour avorter par médicament sans passer par la phase de chirurgie, enfin chirurgie, passage à l'hôpital, tout ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les autres IVG, il y a une procédure aussi qui est autorisée aujourd'hui pour faciliter ces interruptions volontaires de grossesse dans le cadre de la pandémie. Donc la téléconsultation est autorisée avec la remise d'ordonnance à distance. C'est exactement comme le premier confinement. Ça va dans le bon sens. Ça permet aux femmes qui voudraient continuer de se faire avorter de continuer de le faire. Car il y a pas mal de soucis sur l'avortement, et il y en a un qui semblait être réglé et qui l'est pas du coup, puisque a été voté en octobre dernier l'allongement de 12 à 14 semaines du délai légal pour recourir à une interruption volontaire de grossesse, donc 45 ans après le passage de cette loi Veil. En fait, ça concerne surtout ou plus particulièrement les ados, hein, qui ont plus de mal à prendre des décisions, c'est des situations pas faciles forcément, et les professionnels de santé ou d'accompagnement sociaux, notamment des adolescents, disent que voilà, passer à 14 semaines, c'est très utile pour que les décisions aient le temps de se prendre. Donc voilà. Alors ça a été voté, c'est bien. Il y a même un autre problème qui justifie un peu cet allongement, c'est la répartition inégale sur le territoire des possibilités d'avortement, notamment à cause de médecins réactionnaires qui s'opposent pour des raisons religieuses essentiellement à prendre en charge les personnes qui demandent des IVG. Il y avait une étude du ministère de la Santé, là, de la partie statistique, qui montrait que ça peut varier du simple au triple le temps moyen de recours de passer à l'IVG pour des femmes suivant le département où elles sont. Alors c'est lié aux structures et c'est surtout lié aux médecins réactionnaires, donc c'est ça qui pose le plus de problèmes. Donc il y a un intérêt important à augmenter et rapidement du coup maintenant ce droit à l'IVG sur 14 semaines. Or on attend toujours, hein, ça a été voté à l'Assemblée et le Sénat, eh ben rien, la loi n'est toujours pas programmée, elle n'est toujours pas passée devant le Sénat. Donc le week-end dernier, 79 députés et sénateurs qui avaient ont co-signé une tribune dans le journal du dimanche pour demander au gouvernement de se bouger un petit peu et d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat enfin la modification de la loi Veil pour augmenter ce délai pour le droit à l'avortement. Quand il y a des problèmes sécuritaires, on va vite. Quand c'est un truc qui touche le droit des femmes à s'occuper de leur corps et à maîtriser, enfin à faire ce qu'elles veulent de leur corps. Bizarrement, les vieux croutons ou les hommes du gouvernement ne bougent pas beaucoup.
Alors les hommes qui bougent pas beaucoup non plus, et certaines femmes aussi, c'est chez les Républicains.
Ah bah,
LR.
Ouais. Quand t'es réactionnaire, tu peux être homme ou femme.
Oui, voilà.
Tu peux même être tout. D'ailleurs, il n'y a pas d'origine sexuelle à la réaction.
Ça concerne le congé paternité, puisque on a des sénateurs qui souhaitent empêcher la mise en place, la prolongation et l'obligation de ce congé paternité. L'idée, hein, je vous rappelle, c'est d'allonger le congé paternité d'obliger les hommes à prendre globalement une semaine après la naissance de leur enfant.
Grosso modo, à prendre leurs responsabilités.
Tu anticipes sur mes réactions. Ce que j'aime beaucoup, c'est la sénatrice Chantal Dezen. C'est pour ça que je dis qu'il y a des femmes. Elle, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, puisque elle trouve que c'est bien, hein, si les pères prennent un congé.
Ah, mais
c'est imposé, ouais, c'est pas bien.
Ah oui.
On rappellera que si c'est pas imposé, il y a des tas d'entreprises qui vont pas vous permettre de faire les choses, et on va, par pression sociale et professionnelle, pression patronale, vous empêcher de le faire.
Et puis si on veut faire changer les mentalités, ça, c'est bien d'imposer certains trucs,
dis,
des fois.
Et comme tu dis, on peut prendre des responsabilités. Et donc elle explique que si certains pères sont disposés à donner du temps à leur enfant, d'autres n'en ont pas envie. Et là, donc, je me dis, donc, il y a des pères qui font des mioches, mais qui veulent pas leur torcher le cul. Pardon pour l'expression un peu vulgaire et
alors,
rapide.
Elle est dans un parti réactionnaire où le rôle des hommes et des femmes est très séparé, très écrit, et il faut pas mélanger les choses. Je pense que c'est ça qu'elle a derrière ces petites idées un peu nauséabondes.
Je me doute. Et puis alors, l'autre idée, au fait, de tout ça, hein, de bloquer ce processus, c'est de dire toujours, c'est l'économie, c'est que dans les TPA et les PME, ça va être compliqué à mettre en place. Ouais, mais de toute façon, quand t'es malade, je veux dire, je dis pas que quand tu vas t'occuper de ton enfant, t'es malade, mais je veux dire, quand t'es absent, quelques jours, une semaine, 15 jours, parce que t'es malade, de toute façon, on te remplace pas dans les TPE, et le boulot, il se fait, et il y a une charge de travail. Sauf que là, ça va pouvoir s'organiser en avance, à la différence, ouais, puisque tu vas...
Parce que c'est prévisible.
À peu près, hein, quand même. Ouais. C'est pas toujours bien gagné, hein, que la naissance, elle se passe comme tu veux, mais enfin, quand ouais, même...
À quelques semaines près, c'est prévisible.
Ouais, enfin, même à quelques jours, si tu veux, pour la plupart du temps, maintenant, puisque malheureusement, on déclenche de plus en plus souvent des accouchements aux grandes dames des femmes et des futures mères. L'autre idée, c'est que de blocage, ça serait réservé aux salariés qui auraient un CDI ou un CDD plus de 6 mois. C'est-à-dire tous les autres, on les a vécus. Ce qui pourrait permettre donc aux TPE ou aux PME de mieux gérer l'affaire et de pouvoir anticiper. Et puis, déjà, bon. Là, ouais, je vais même pas argumenter parce que je vois pas trop. Et puis, en fait, il paraît que ça pourrait être un problème pour les futurs pères parce que ça pourrait être discriminant à l'embauche. Et alors là, je me dis, et donc toutes les femmes qu'on ne veut pas embaucher parce qu'elles pourraient potentiellement, rappelons que toutes les femmes ne sont pas des futures mères, hein. On peut faire une vie sans enfant.
C'est mal vu quand même.
Et sans accouchement aussi, parce que tu peux avoir des enfants que tu adoptes, et donc du coup, tu n'es pas dans une situation non plus de grossesse, d'accouchement, non, mais... de congé. Là, donc, souvent, ouais, les femmes peuvent être discriminées à l'embauche parce qu'elle a peut-être l'âge d'avoir des gosses, elle va nous faire chier, non ? Et donc là, d'un seul coup, on se pose la question sur les hommes qui pourraient être discriminés. Alors, parce qu'ils pourraient être pères pour quelques
sera,
jours. Ouais,
ça non, sera plus mais... facile parce que du coup, comme lui, il ne porte pas l'enfant, ça ne sera pas visible s'il va se faire embaucher.
Ouais, mais t'imagines jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, ouais, de la discrimination chez les femmes, ou pas, c'est, en tout cas, à mon avis. En tout cas, a priori, pas chez ces gens-là. Mais ils ont ce type d'argument. Je trouve ça magnifique. Et puis, autre chose, ça sera ma discussion féministe de cette soirée. Autre que celle que je viens de faire, c'est, ça concerne Marie Wollstonecraft, institutrice, écrivaine du 18e siècle, née à Londres en 1759, qui est présentée souvent comme l'une des premières féministes britanniques, et qui a enfin une statue. Alors c'est quand même 10 ans de sous récoltés pour qu'elle ait sa statue dans un jardin au nord de Londres. 143 000 livres pour la réalisation de cette statue. C'est une artiste, Maggie Humbling, qui a réalisé cette sculpture, qui donc est à Newington Green, donc dans un jardin. C'est un bronze chromé, c'est une petite chose, hein, c'est pas très gros. Mais ça fait débat, voire polémique, voire ça soulève de la colère, parce qu'elle est représentée, Marie, nue.
Enfin, les statues grecques, elles sont nues aussi. Enfin, je veux dire, c'est
pardon, mais excuse-moi. Alors, c'est là où je vais te rentrer dans le lard. Excuse-moi, mais combien de bonhommes qui ont marqué l'histoire ?
La cathédrale.
Voilà.
Oui, et on a des statues sur le plateau de la Croix-Rousse, sur la place des Tapis. Les
oui,
personnages
mais ce ne sont pas une représentation d'un hommage à une femme, oui, qui a marqué l'histoire britannique.
C'est vrai. Mais alors, du coup, donc, c'est quoi le sculpteur ou la sculptrice, sexiste ?
Non, alors, elle dit qu'elle a voulu rendre...
c'est une femme qui a fait le...
Oui, c'est une femme. Elle a voulu rendre un hommage à travers le temps, et n'a pas voulu donner une représentation exacte du corps et des formes. C'est là où elle est attaquée, je ne fais que vous transmettre, en disant mais pourquoi on ne donne pas le vrai visage de Marie Wollstonecraft, puisqu'on veut lui rendre hommage. C'est dommage. D'autres disent c'est quand même dommage de nous mettre encore une nana à poil,
c'est vrai,
alors qu'on aurait pu la présenter habillée.
En même temps, les réactionnaires, ils n'aiment pas les hommes et les
et
femmes.
Et c'est là
à
où
poil,
évidemment ça choque, parce que dans la presse britannique conservatrice, on attaque effectivement cette nudité, et en même temps, d'autres apposent que c'était justement une féministe anticonformiste. Elle a eu plusieurs histoires d'amour. Elle a été mariée à William Godwin, qui est présenté souvent comme un des premiers anarchistes britanniques, qui a soutenu la Révolution française, hein, William Godwin. Donc on dit qu'en même temps, elle aurait peut-être apprécié d'être montrée aussi nue, anticonformiste. Donc ça fait un débat qui est intéressant, je trouve, parce qu'il n'y a pas de côté blanc ou noir dans ce débat, ouais, même si j'avoue que c'est vrai qu'il y en a marre que les femmes soient toujours à poil dans les représentations.
Ouais, mais dans une statue, c'est quand même moins... C'est,
je sais pas,
c'est
quand même
femme
c'est
objet,
la première
comme on
fois
a dans
qu'elle
la pub.
Elle est représentée.
Enfin, je ne l'ai pas vue, la statue.
Je trouve qu'esthétiquement, c'est plutôt pas mal, hein, c'est pas la question. Pour être très moche, c'est même pas la question. Ah si, il y en a évidemment qui la trouvent pas belle, mais c'est pas la question du débat et de la polémique aujourd'hui autour de ce travail artistique. C'est plutôt comment on représente la femme, comment représentent les femmes dans l'art quand on veut leur rendre hommage. Combien de femmes existent aujourd'hui? Est-ce qu'il faut forcément les montrer nues? Est-ce qu'il faut montrer le corps de la femme à chaque fois qu'on veut leur rendre hommage?
Oui, parce qu'il y avait d'autres alternatives, hein, quand même.
Certainement, certainement. Alors, comme en même temps se défend Maggie Humbling, elle espère bien que ce ne sera pas la seule représentation de Mary Wollstonecraft.
Voilà, et
que
donc, c'est son choix d'artiste aussi. Hein.
On pourra lui rendre hommage. Voilà. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il a fallu des années pour arriver à rassembler de l'argent pour arriver à faire cette sculpture, cette statue pour cette femme, et que c'est bien dommage parce qu'on arrive à lever des fonds des fois beaucoup plus rapidement quand c'est des bonhommes, et qu'elle a une histoire quand même féministe extrêmement importante là-bas, et elle a influencé au 18e siècle, des femmes aussi ici sur ce territoire français. Donc elle a une histoire qui est à mettre en avant et à valoriser. Elle a écrit un ouvrage vraiment très intéressant où elle explique que si la condition des femmes est aujourd'hui, enfin à l'époque, hein, quand elle dit ça, perçue comme moindre, inférieure, c'est parce que culturellement, on ne lui donne pas le moyen d'être à l'égal des hommes. Et donc voilà, elle, c'est un des premiers textes que je trouve très très intéressant, et il y a moyen de lui rendre hommage, je l'espère bien encore.
Ouais. Alors j'attaque ma rubrique répression à tous les étages avec trois petites informations. Alors la première, alors vous en avez tous entendu parler, hein, de cette loi sur la sécurité globale qui sera examinée par les parlementaires à partir du 17 novembre. Loi liberticide au possible. Et il y a un texte qui circule qui a été une lettre en fait, qui a été déjà signée par au moins 55 organisations. Alors pour les plus célèbres, hein, Quadrature du Net, la Ligue des Droits de l'Homme, le Syndicat Solidaire, le Syndicat de la Magistrature et plein d'autres. Et je me suis dit, je vais lire cette lettre, ça résume à peu près bien les choses. Et puis si vous êtes dans une orga, ce serait bien de soutenir le mouvement. Je sais pas comment faut faire pour lutter contre cette loi, mais il y a l'idée d'envoyer cette lettre aux députés qui vous représentent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Là, le droit, on va pas trop sortir dans la rue, faire des blocages et des manifestations. Donc c'est à mon avis un bon moyen. Je vous lis la lettre. Donc, qui s'appelle Contre la loi sécurité globale, défendons la liberté de manifester. Nous nous opposons à la proposition de loi sécurité globale. Parmi les nombreuses propositions dangereuses de ce texte, trois articles risquent de limiter la liberté de manifester dans des proportions injustifiables. Liberté déjà fortement restreinte sur le terrain et de nouveau remise en cause par le schéma national du maintien de l'ordre. L'article 21 concerne les caméras portables qui, selon les rapporteurs du texte, devraient équiper toutes les patrouilles de police et de gendarmerie dès juillet 2021. S'il est voté, le texte autorisera donc la transmission de flux vidéo au centre de commandement en temps réel. Cela permettra l'analyse automatisée des images et notamment la reconnaissance faciale des manifestants et manifestantes et des passants, en lien avec les 8 millions de visages déjà enregistrés par la police dans différents fichiers. Ces nouveaux pouvoirs ne sont justifiés par aucun argument sérieux en matière de protection de la population et ne s'inscrivent aucunement dans une doctrine de gestion pacifiée des foules. L'effet principal sera de faciliter de façon considérable des pratiques constatées depuis plusieurs années en manifestation visant à harceler des opposants politiques, notamment par des placements en garde à vue préventive, par l'interdiction de rejoindre le cortège ou par des interpellations arbitraires, souvent non suivies de poursuites. Ces pratiques illicites seront d'autant plus facilement généralisées que l'identification des militants et des militantes sera automatisée avec ces reconnaissances faciales que l'on connaît bien maintenant. L'article 22 autoriserait la surveillance par drone qui, selon le Conseil d'État, est actuellement interdite. Ici encore, la police n'a produit aucun argument démontrant qu'une telle surveillance protégerait la population. Au contraire, nous avons pu constater en manifestation que les drones sont avant tout utilisés pour diriger des stratégies violentes contraires à la liberté de manifester. Nassage, gaz et grenades lacrymogènes notamment. Comme pour les caméras mobiles, la reconnaissance faciale permettra ici aussi d'identifier les militantes et militants politiques. En clair, le déploiement massif des caméras mobiles et sur les drones, couplé aux caméras fixes déjà existantes, entraînerait une capacité de surveillance généralisée de l'espace public, ne laissant plus aucune place à l'anonymat essentiel au respect du droit à la vie privée, et ne pouvant avoir qu'un effet coercitif sur la liberté d'expression et de manifestation. Et enfin, l'article 24 vise à empêcher la population et les journalistes de diffuser des images du visage et de tout autre élément d'identification de fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie. Autrement dit, les images des violences commises par les forces de l'ordre ne pourront dès lors plus être diffusées. Le seul effet d'une telle disposition sera d'accroître le sentiment d'impunité des policiers violents et ainsi de multiplier les violences commises illégalement contre les manifestantes et les manifestants. Nous appelons les parlementaires à s'opposer à ces trois dispositions qui réduisent la liberté fondamentale de manifester dans le seul but de faire taire la population et de mieux la surveiller. Voilà la lettre donc signée par ces 55 organisations contre la loi de sécurité globale en cours, enfin qui va bientôt être discutée et votée au Parlement.
Oui, il y a une tribune qui a été signée par des étudiants, des journalistes, des universitaires, des organisations qu'on peut lire sur le site d'Acrimed. Un texte assez long, intéressant, qui est signé par Acrimed d'ailleurs, je vous invite à aller lire, qui pose une question que je trouve intéressante. La force publique au service de tous doit être observable en tout temps par tous et toutes. Point d'interrogation. La réponse, le début de réponse en tout cas de ce texte, dans un état démocratique respectueux du droit international et de la liberté d'informer, ce serait inutile. Mais le problème, il est bien évidemment, la suite de ce texte l'expose bien, c'est que dans un état démocratique respectueux du droit international et de la liberté d'informer,
c'est pas ici.
C'est pas tout de suite là maintenant. Ouais. Voilà, donc je trouvais que cette question était bien formulée aussi, donc un texte à relire sur le site d'Acrimed.
Voilà. Alors, voilà. Dans la série des lois liberticides, il y en a une deuxième qui est en cours et qui a presque rien à voir, qui se glisse au sein de la loi qui s'appelle le processus législatif de la loi de programmation de la recherche, le LPPR. En fait, grosso modo, avec cette loi, occuper son université, bloquer un conseil d'administration, faire débrayer son amphithéâtre, sera potentiellement passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Donc c'est des sénateurs qui ont ajouté cet amendement avec l'appui du gouvernement sur le stipulant que le fait de pénétrer ou de maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes dans le but d'entraver la tenue d'un débat organisé dans les locaux de celui-ci est puni d'un emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Tout ça donc de la répression. Bref, mai 68 ne serait plus possible avec cette loi scélérate. Dans les faits, ça s'est joué donc lundi dernier lors de la commission mixte paritaire réunis pour essayer de trouver une version commune du projet entre la version de l'Assemblée nationale et la version du Sénat, qui a donc confirmé cet article et l'a même alourdi en allant très très loin, puisque si c'est commis en réunion, vous risquez plus que les 7 500 € d'amende, les 45 000 comme je l'ai dit. Or, quand on fait une contestation dans une fac, on n'est jamais tout seul, hein, c'est un mouvement collectif, donc on a forcément un truc en réunion, et voilà, vous prenez beaucoup plus. Bref, c'est une arme de guerre contre les futurs mouvements étudiants. On en est là aujourd'hui. Oui, on parle pas de Hong Kong. Si on a du temps, on en parlera tout à l'heure. Mais on s'en approche petit à petit. Donc voilà, c'est un truc très très critique. C'est un petit peu le rêve de la droite et de l'extrême droite d'empêcher les étudiants de se bouger. Et c'est Macron qui le réalise. Voilà, tout va bien dans ce meilleur des mondes possible. Et puis toujours dans la répression, 4 enseignants. De Mel, c'est dans les Deux-Sèvres, ont écopé le 4 novembre dernier de lourdes sanctions. Donc je vais rappeler un peu ce qui s'est passé. Alors c'est le rectorat, l'antenne locale du ministère de l'Éducation nationale, qui reproche à ces enseignants d'avoir participé à la mobilisation contre les conditions de passage des épreuves du bac de l'année dernière, enfin du début d'année. Vous vous rappelez, en fait, il y avait des images un peu marrantes. Il y a eu un mouvement de contestation contre ces fameuses E3C, ces épreuves du bac qu'on passe en première l'année dernière, qui sont toutes supprimées cette année à cause du Covid. Et il y avait des scènes surréalistes avec des flics qui encadraient les lycéens qui allaient dans leur lycée. Enfin, voilà, un truc assez bizarre. Dans le lycée Joseph Desfontaines de Mel, des étages ont été intégralement barricadés par l'administration pour y enfermer les élèves pour qu'ils fassent leurs évaluations. Les portes coupe-feu étaient sanglées, enfin tout était comme ça. Tout était bloqué en fait. Et donc c'est un truc dangereux, hein, s'il y avait quelque chose qui se passait, les gamins restaient dedans enfermés, si ça brûlait, ils mouraient tous, enfin, voilà des trucs absolument horribles. Et en fait, donc l'administration fait un comportement irresponsable, inadmissible, voire criminel. Et qu'est-ce qu'il fait, il se retourne contre les profs qui étaient présents en les accusant d'avoir empêché le déroulement normal de ces évaluations. Donc voilà, donc il y a Sylvie Contini, Cécile Proust et Alain Levesque qui sont suspendus de leurs fonctions pour 4 mois. Il leur a interdit d'approcher leur lycée et de contacter les élèves et les professeurs de l'établissement. Donc ça, c'est arrivé en septembre. Peut-être en septembre. Et une dernière, Sandrine Martin, a été convoquée en mi-octobre et la rectrice l'a mutée de force. Voilà. On en est là aujourd'hui quand on est prof et qu'on essaye de se mobiliser, de faire des actions syndicales et pour aider les élèves, il y a la répression. Donc voilà, le patronat n'a pas le monopole de la répression syndicale, loin de là. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette petite répression française.
Allez, rapidement, 2 sujets d'écho à ce soir. Je donne suite à ce qui s'était passé aux États-Unis d'Amérique avec Monsieur Trump qui attaquait TikTok, enfin l'application qui attaquait précisément la maison mère, ByteDance, BitDance, comme vous voulez. Donc, on vous rappelle, Monsieur Trump estime que TikTok, l'application chinoise, va avaler les informations, les données des Américains et Américaines pour les donner au gouvernement chinois et chinoise. Le problème, c'est qu'il n'a pas donné la preuve de tout ça. Mais en tout cas, au 14 août, il y a un décret qui était paru pour nous expliquer à TikTok que si jamais les activités aux États-Unis d'Amérique de TikTok n'était pas vendu à une société des États-Unis d'Amérique, TikTok ne pourrait plus exister sur le sol des États-Unis d'Amérique. Une fois qu'on a fait ce rappel, on se dit, et maintenant, qu'est-ce qu'il en est ? Ben, il n'en est nulle part, parce qu'apparemment, M. Trump et son équipe ont été largement occupés, et donc c'est TikTok qui est retourné devant la justice pour dire, qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que personne n'y a regardé notre proposition de nous allier à un partenariat avec Oracle, on en avait parlé ici. De fait, il ne se passe rien, et l'ultimatum, c'est aujourd'hui, jeudi 12 novembre.
Je crois qu'il a été occupé à jouer au golf, le président de la.
Apparemment, et son équipe, apparemment, a pris des sueurs, donc du coup, c'est pas trop occupé de savoir si TikTok allait rester ou pas aux États-Unis d'Amérique. Le truc, c'est que le délai, c'est aujourd'hui, que donc TikTok, le 10 novembre, hein, cette semaine, est donc retourné pour dire coucou, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, on avait un beau projet, et que le projet, en fait, il est passé à la trappe et tout le monde s'en fiche. Donc, ultimatum, pas ultimatum, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait toujours pas ce que va devenir donc cette application TikTok aux États-Unis d'Amérique. Et puis deuxième sujet écho, ça concerne Pfizer, vous savez, qui a donc annoncé
un vaccin
à 90% de réussite. Lundi, l'action Pfizer a pris 7%.
Ouais, alors, en fait, ils se sont avancés, je pense qu'il y avait un coup en bourse à jouer. Hein.
Alors, là c'est une histoire qui va plaire aux complotistes.
C'est presque du délit d'initié, le truc. Hein.
C'est pas sûr. Je vais expliquer. Ensuite, on fera un commentaire. Je vais d'abord expliquer. On a donc appris que Albert Bourla, le patron PDG de Pfizer, a vendu des actions du laboratoire, a vendu précisément 132 508 titres au prix de 41,94 $ à la bourse, ce qui lui a fait récupérer 5 600 000 $. On a appris que la vice-présidente, Sally Sussman, a vendu 43 662 titres, ce qui lui a fait 1 800 000 $. Donc pour les millions, hein, les 5 600 000 $, ça fait 4 760 000 €. Si votre cerveau avait du mal à comprendre en milieu, je sais pas si vous comprenez.
C'est
mieux.
Pas loin, quoi.
Ouais, c'est pas loin. Le truc, c'est qu'évidemment, tout ça s'est fait le jour où le Pfizer annonce les résultats de son vaccin et que
la bourse explose.
La bourse, elle explose, hein, 7%, je vous l'ai dit lundi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on nous explique que, en fait, tout cela faisait partie de ce qu'on appelle un plan de désinvestissement périodique. C'est-à-dire que c'est une programmation de la gestion financière de ce PDG, de sa vice-présidente, qui avait été actée en août 2019 pour Albert Bourla et en novembre 2019 pour Sally Sussman. On nous explique donc que tout ça a été présenté, hein, à la SEC, c'était le gendarme des États-Unis d'Amérique, le gendarme des marchés, hein, aux États-Unis d'Amérique, et que tout ça a été voté en conseil d'administration et à l'Assemblée générale, et que ça avait été mis en place donc dès août 2019, c'est-à-dire bien loin de la pandémie. Et même, on aurait pu penser que janvier-février, peut-être qu'ils auraient pu dire, là, on met ça en place parce qu'on va faire du pognon à un moment, on va y arriver, tu vas voir. Là, l'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on nous explique, c'est que ça a été, donc dans le cadre de ce plan qui a été mis en place en août 2019, on nous explique donc que ça a été confié à un mandataire, comme le prévoit hein, le gendarme des marchés, la SEC. Et ce mandataire est censé vendre tout ça quand ça atteint un certain seuil.
Oui, alors du coup, ils règlent un seuil sur un ordinateur et dès que ça dépasse, ils vendent, c'est ça hein.
C'est ça l'idée. Voilà. Bah, après, il y a des gens hein, qui sont très très bien payés, pareil, pour aussi appuyer sur le bouton et surveiller ces marchés.
Mais du coup, c'est ce qui s'est passé le jour de cette annonce-là. Quoi. Ils attendaient. Enfin, ils attendaient. C'est un des millions de trucs qu'il doit attendre dans un ordinateur.
Est-ce que c'est un complot que Albert Bourla, il avait tout prévu, qu'il allait pouvoir se faire tout plein de pognon? On va peut-être arrêter de penser ça. Hein. Par contre, est-ce qu'il profite d'une situation extrêmement rentable? Bien évidemment. Ouais. Mais pour autant, ça ne fait pas un complotiste. Hein. Il faut arrêter là-dessus. Parce que alors là, on voit arriver les trucs, Albert Bourla, d'un seul coup, blablabla. Non, non, c'est juste qu'en fait, il profite...
Oui, donc il n'y aura pas de délit d'initié. Quoi,
Alors, s'il y en a un, de toute façon, la SEC, ce n'est pas des gens qui rigolent. Ils tombent sur le paletot de tas de gens qui essayent de rouler et de se faire du pognon sur le dos d'un système. Et la SEC, en général, intervient. Donc, je pense qu'on saura assez rapidement si Albert Bourla et Salut Sussman ont essayé de se faire de l'argent dans le cadre de la pandémie, au-delà de ce qu'on nous raconte aujourd'hui, parce que peut-être qu'on peut aussi nous mentir. Allez donc savoir. Voilà.
Alors je parle un peu de Hong Kong rapidement, puisque, comme ça a été qualifié par le député pro-démocratie Fernando Chung, c'était certainement l'une des journées les plus noires qu'ait connue Hong Kong hier. En effet, l'ensemble des élus de son camp ont annoncé leur démission du LegCo, le Conseil législatif de Hong Kong, le Parlement qui gère l'île de Hong Kong, pour protester contre l'éviction de 4 de leurs collègues. Donc on va vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, ces 4 collègues ont été démis de leur mandat juste après l'adoption par Pékin d'une résolution qui autorise les autorités locales à pouvoir virer des députés. Bah ouais, forcément, ils attendaient ça. Hop. Alors le prétexte est des députés menaçant la sécurité nationale. Donc le gouvernement de Hong Kong a désormais le pouvoir d'écarter n'importe quel élu, notamment pro-démocratie, s'il estime que ce dernier a fait preuve d'une loyauté insuffisante envers la Chine, bien évidemment. Les députés ont estimé donc que le LegCo, cette assemblée, est tellement compromise par l'exécutif aujourd'hui qu'il est désormais nécessaire pour eux de trouver d'autres solutions. Et ils ont tous démissionné ensemble. Donc voilà. Donc ce matin, réunion du Parlement de Hong Kong. Et il restait plus que les pro-chinois, les pro-Chine, sauf deux élus, Pierre Chan, n'a pas d'affiliation politique, et Cheng Chung-tai, qui est président d'une formation qui s'appelle Civic Passion, qui est plutôt des gens localistes, un tout petit parti, mais lui il est resté, il a estimé que la démission en bloc serait pas efficace pour attaquer le régime chinois et ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc ça va pas très bien. Ça supprime quasiment définitivement la démocratie à Hong Kong. Chaque semaine ou tous les 15 jours, on a une nouvelle qui est de pire en pire. Alors c'est un peu plus d'un an après les dernières grosses manifestations pro-démocratie. Entre-temps, il y a eu la pandémie là-bas aussi. Donc là, en ce moment, Hong Kong tente à ressembler énormément à la Chine. Vous pouvez plus ni descendre dans la rue, ni participer à des élections libres et ouvertes, ni vous exprimer. Soit à travers un parti, soit à travers un journal. Alors il en reste encore un peu, hein, mais il y a des risques d'emprisonnement qui sont généralisés maintenant un petit peu partout. Alors il y a eu, ça s'est passé quasiment dans une indifférence générale. Alors pas tout à fait, puisqu'il y a quand même le gouvernement britannique qui a réagi, le gouvernement allemand aussi, qui ont dit que c'était une atteinte à la démocratie. Les États-Unis ont dit qu'ils menaçaient la Chine de nouvelles sanctions. Voilà, la France ferme sa gueule, parce que, je sais pas, il y a des intérêts économiques avec la Chine. Donc voilà, aujourd'hui, Hong Kong reste quand même très isolé, même au niveau international. Peu de pays se mobilisent vraiment pour aider la petite île face à la dictature chinoise. Et puis, je voulais parler du Haut-Karabakh, parce qu'il s'est passé plein de choses. Alors, comme on en a parlé deux fois, je me suis dit qu'il faut que j'aille jusqu'au bout quand même de donner des informations sur le Haut-Karabakh. Donc on va faire un petit bilan de la situation de ce petit bout de territoire. Alors sur le plan militaire, c'est clair, les lignes de défense arméniennes, notamment au sud, se sont effondrées. Les forces armées azerbaïdjanaises ont réussi à s'introduire dans la partie la plus méridionale du front. Elles ont avancé dans des zones, dans beaucoup de zones, notamment près du fleuve Arax. Alors sous la protection, sous la protection et de leur domination aérienne, hein, grâce à des drones israéliens et la participation aussi d'armement turc, ces forces ont même bloqué la route la Chine Stepanakert, c'est une sorte de corridor là qui permet de relier l'Arménie au Karabakh et notamment à Stepanakert. Donc c'est la seule vraie liaison qui existe. Donc ça c'est tombé aussi. Donc 4 jours de combat acharné et au bout de ces 4 jours, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a annoncé dans un discours télévisé, donc c'était le 8 novembre, que ses forces avaient capturé la ville symbolique de Chouchi. Alors je le prononce comme ça, toi tu as une autre prononciation
alors,
qui existe.
Alors en fait, déjà, c'est choix, je voyais, je suis ma fille. Déjà, c'est Chouchi ou Choucha, ça dépend aussi là voilà. De quel côté de la frontière vous êtes. Voilà, parce qu'il y a deux manières d'appeler hein, dans ce territoire les lieux. Et puis ça s'écrit différemment. C'est vrai que ces derniers temps, on l'a vu beaucoup écrit C-H-O-U-C-H-I.
C'est la version arménienne.
Oui, plutôt que d'ailleurs Choucha, version azerbaïdjanais. Mais voilà, libre à vous.
Voilà, pas trop d'infos hein, sur le sort des civils dans cette ville occupée maintenant par l'Azerbaïdjan. Alors. Du coup, le pari fait par l'alliance entre Bakou et Ankara, la Turquie et l'Azerbaïdjan, a vraiment fonctionné. Hein. Ils ont profité de la pandémie mondiale, que tout le monde soit occupé par ça, de l'élection américaine présidentielle, là où c'est pareil, les États-Unis étaient occupés à autre chose, pour continuer leur avancée. Donc en une semaine, les avancées ont été très très importantes. Ils ont neutralisé tout ce qu'ils voulaient neutraliser. Aujourd'hui, ils ont récupéré une bonne partie du territoire qu'ils voulaient. Et surtout, sans que personne critique la participation des forces turques, le déploiement de plusieurs milliers de mercenaires islamistes issus notamment de la Syrie. Voilà, du coup, tout le monde a baissé les yeux et a laissé faire parce qu'on regardait ailleurs. Voilà. Donc, il s'est passé ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, il y a eu un accord de signé. Je voulais dire un truc sur la Russie. La Russie est censée protéger un petit peu l'Arménie, mais pas le Haut-Karabakh, parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Haut-Karabakh, région qui était reconnue par personne, on le rappelle, même si elle était occupée par des Arméniens, mais du Haut-Karabakh. D'ailleurs, on parle russe hein, souvent, Stepanakert, hein, plus que arménien. Hein. En tout cas, quand on y est allé, nous c'était ça. Alors, la Russie a botté en touche en disant, il y en a qui ont dit, la Russie a pas les moyens d'intervenir ou la Russie était pas du tout sur place. C'est pas vrai. Il y avait des exercices dans la région. La Russie était prête à intervenir. Il y a un vrai choix de la part de Vladimir Poutine de pas intervenir pour laisser faire les choses. Et puis surtout, il est quand même plutôt défavorable au leader arménien Nikol Pachinian, le premier ministre, qui a été élu sous le coup d'une sorte de révolution de velours là, qui promettait des changements démocratiques. Et dès qu'on parle de démocratie, il a un peu des boutons qui poussent, Vladimir Poutine. Donc il a laissé faire. Pourtant, l'armée azerbaïdjanaise a abattu un hélicoptère russe. Hein. Mais non, c'est pas grave, on s'excuse. Comme quoi, la Russie a tout fait pour que la situation en arrive où elle est aujourd'hui. Alors un accord a été signé le 9 novembre. Il y a quelques jours, donc entre les présidents, le président dictateur azerbaïdjanais, les Russes, représentés donc par à travers Poutine, et le premier ministre arménien Pachinian. C'était le Russe, c'était Aliyev qui était présent notamment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la situation elle est celle-ci ? C'est la Russie qui est garant de la sécurité du nouvel ordre sur le plateau sur ce Haut-Karabakh. La Turquie apparaît nulle part, pourtant c'est bien elle qui manœuvre tout ça. Donc voilà, alors l'accord est relativement moche, hein, puisqu'il officialise les gains territoriaux azerbaïdjanais, donc notamment des villes et des villages dans lesquels il y a des Arméniens. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors un corridor à la Chine, le fameux corridor à la Chine là, est rajouté pour desservir quelques petites villes, mais on n'a pas bien d'info. Les personnes qui étaient déplacées sont officiellement l'autorisation de revenir mais on ne sait pas ce qui va se passer. Bref, c'est quand même plutôt triste. La Russie a gagné parce qu'elle voulait intervenir depuis très longtemps dans cette région et imposer ses troupes. Du coup, aujourd'hui, c'est les troupes russes qui vont gérer la situation avec 1960 soldats. Et au-delà de tout ça, le premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui était porteur d'une réforme démocratique, il est affaibli au possible. Alors, il a pas bien géré la crise. Il a exacerbé le populisme et le nationalisme, et ça se retourne contre lui aujourd'hui avec des manifestations et de la répression de manifestants comme on a vu hier. Donc là, Poutine a gagné, il a remis son armée où il voulait, et il est en train de faire mettre de côté le principal opposant. Faut savoir que l'Arménie, c'est un petit pays qui dispose pas de ressources de gaz, qui a pas beaucoup de moyens. Il y a deux manières maintenant de s'en sortir. C'est soit ils remilitarisent, ils remettent l'argent qu'ils ont pour essayer de regagner des trucs, ça sera une catastrophe, soit ils se démarquent en essayant de redévelopper le côté démocratique, en devenant une vraie démocratie et en essayant de rentrer dans un monde plus moderne, plus global, parce qu'ils auraient besoin de ça. Le problème, c'est que si jamais Nikol Pachinian est viré, on n'est pas sûr que le suivant, ce soit à nouveau quelqu'un porteur des réformes démocratiques. Donc, il y a une grosse inquiétude là-dessus. Et puis, au niveau de l'Azerbaïdjan, on sait pas bien ce qui se passe, parce que ça va renforcer Ilham Aliyev. On rappelle, c'est un pouvoir autocratique. Il a pris les suites de son père, de mémoire, et il dirige d'une main vraiment de fer l'Azerbaïdjan. Et là, l'Azerbaïdjan, il y a eu une mobilisation de la population, parce que il a tellement exacerbé lui aussi le nationalisme que la population s'est sentie investie dans cette guerre. Aujourd'hui, cette population, elle va peut-être demander des comptes aussi. Et il a peut-être joué avec le feu. C'est ce qu'on pourrait espérer, un côté positif, que l'Azerbaïdjan bascule aussi dans un système un peu plus démocratique. Donc voilà où on en est aujourd'hui, dans cette situation ubuesque, où finalement la Turquie a gagné ce qu'elle voulait. L'Azerbaïdjan a pour l'instant gagné, mais c'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Et la Russie est l'immense vainqueur. Les Arméniens ont plutôt perdu. Voilà, c'est un peu résumé, mais c'est un peu ça où on en est. Il nous reste environ 15 secondes.
15 secondes pour dire que c'est embêtant pour un autre territoire reconnu par personne, puisque le Haut-Karabakh faisait partie des trois territoires États qui reconnaissaient la Transnistrie. Donc la Transnistrie vient de perdre un autre État soutien. La Transnistrie s'est coincée entre la Moldavie et la Russie là-bas. C'est les États séparatistes qui sont soutenus par personne. Et par contre, on y retrouve à chaque fois un seul et unique pays qui a la manœuvre, c'est la Russie.
Voilà.
On y reviendra peut-être un jour sur cette Transnistrie.
Voilà, on aurait pu vous parler du film complotiste à la mode, Hold Up, mais on n'en parlera pas.
Non, je t'empêche d'en parler.
Ça nous a juste fait vomir.
Voilà.
Voilà, il est l'heure de se quitter. On vous laisse avec la suite des programmes de La Plus Rebelle des Radios.
Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Bye. Ciao. Bye.